trees of green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Bois un infusion. T'arrives tout là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Bois en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Eh bien, bonjour Annette.
Bonjour Bernard.
Ah, on a promis, il faut le faire. Donc nous allons...
Série d'émissions FestiWild.
Ah, c'est vrai qu'on a planté notre Tipeee à FestiWild pour récupérer des sons extraordinaires, des voix sympathiques et tous ces gens-là pour défendre la nature qui en a bien besoin.
FestiWild, réconcilier l'humain et la nature.
Donc une association qui tous les deux ans met en place un super festival. C'est la quatrième déjà, hein. Avec des habitués, avec des gens qu'on retrouve, mais toujours avec des livres, des films, du théâtre, des expositions, des artistes.
Dans un cadre extraordinaire à l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Et une équipe de bénévoles et de professionnels extraordinaires aussi qui se décarcassent un maximum pour vous. Alors, nous, on a amené le micro, on a été invités, on a amené le micro parce qu'on s'est dit qu'il faut immortaliser des moments et des rencontres. Donc ce micro, Annette, il traîne un petit peu,
il traîne un peu partout. Donc on a envie de vous faire partager des échanges. Alors par exemple avec Michel Munier, avec Francis.
Michel Munier, je veux dire celui qui a planté la graine à Vincent.
Exactement. Ouais,
la graine de la nature. Après le reste, ça ne nous regarde pas, mais extraordinaire.
Francis Allais. Roland de Miller.
Ah, attends, on dit un peu qui c'est quand même, Annette.
Ah.
Donc Francis Allais, donc le botaniste extraordinaire. Donc Roland de Miller, donc lui, un archiviste passionné de nature qui a très très bien connu Robert Reinhart. Donc quand on nous parle de Robert Reinhart, on a tout de suite accroché. Puis c'est vrai que c'est son projet de bibliothèque. Enfin, on verra tout ça. Vous allez voir.
Noélie du Parc du Vercors, des animations.
Voilà, une engagée en permanence, pour faire passer aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Hein. Voilà, les valeurs du parc.
Locus Solus.
Ah, Locus Solus qui nous a fait un sanglier magnifique. Donc, comment un acteur peut se mettre dans la peau de sanglier et faire passer ce personnage? C'était génial.
On peut faire le lien avec Raphaël Madley qui a écrit un livre sur le sanglier.
Ah voilà, oui. Donc là, on aura un petit interview aussi, là, donc les amis du sanglier.
Des extraits peut-être d'un spectacle merveilleux de Prélude de Giono.
Ah oui, mais bon, je pense que on ne pourra jamais retranscrire le spectacle.
Ah,
on va essayer, on va essayer de le faire venir, ouais.
Après, on va se balader encore avec Jonathan Rebouilla.
Ah oui, Jonathan, il faut dire. Hein.
J'ai vu qu'il fait des origamis.
Un être extraordinaire. Et qui partage cette passion avec les enfants, avec tout le monde. C'est extraordinaire. Alors, à la radio, peut-être que ça va pas payer, mais vous allez voir que c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Jérôme Bouvier, la compagnie Virevoltante, enfin voilà.
Bon, Jérôme Bouvier qui porte le festival et qui, lorsqu'il arrive à une conférence avec ses films, donc Jérôme Bouvier, caméraman, réalisateur, et c'est bien lui qui est à l'initiative de ce festival.
Voilà. Bonjour Bernard.
Eh bien bonjour Annette.
Et aujourd'hui, un spécial Michel Munier.
Ah oui, le papa de Vincent Munier et puis d'un frère et d'une sœur, je ne sais pas le nom.
Michel et Vincent qui étaient donc les parrains de Festival 2024.
Voilà, et je crois qu'ils sont en train de préparer un petit film justement. Cette transmission de la nature, c'est important. Donc tous les parents, tout ce que vous faites avec vos enfants auprès de la nature, je pense que c'est des choses qui vont rester. Parents, grands-parents, éducateurs, instituteurs, il ne faut pas hésiter. Et Michel nous donne une belle leçon puisque le résultat, c'est Vincent, son frère et sa sœur qui sont tous les trois des passionnés de nature. Donc Michel, un grand naturaliste qui a protégé le tétra, qui a protégé aussi le castor, et qui a passé énormément de temps, puis qui a aussi défendu les forêts vosgiennes, et qui a passé énormément de temps aussi pour transmettre un petit peu, voilà. Donc il y a des livres de Michel Munier, et puis il y a aussi une belle rencontre. Donc comme beaucoup de naturalistes, c'est une personne relativement discrète, mais pour nous, eh bien, on connaît maintenant le parcours de cette famille extraordinaire, avec un minibus qui part dans les forêts. Voilà. Allez, on est parti avec Michel ?
On est parti.
Détente et écoute.
Bonjour, bonjour Michel, Michel Munier. Donc tu nous viens de loin, là, les Vosges, quel petit village ?
Alors effectivement, donc c'est un petit village, une petite montagne.
D'accord.
Et oui, alors moi j'habite plutôt sur les contreforts, hein, des
D'accord.
Vosges, une petite ville. Et je suis né dans cette maison où j'habite, où nos enfants ont vécu aussi. Une maison contre la ville, mais tout près de la forêt, et de la forêt, des ruisseaux et un grand massif forestier qui monte jusqu'au sommet des Vosges. Quoi.
D'accord, on t'imagine déjà petit en contact avec la nature ?
Ah oui, oui, oui. Donc alors il faut quand même que je rappelle que je suis né juste après la guerre, donc voilà, le dernier d'une fratrie de 6 où j'ai vu mes parents toujours travailler, hein, c'était le labeur, et dans cette petite maison, faut savoir que nos chambres n'étaient que pour dormir.
D'accord.
Et en hiver, il y avait une petite cuisine qui faisait à peine 10 mètres carrés.
C'est donc, la pièce chaude, quoi, celle-là ?
La pièce chaude où il se passait tout, mais bien sûr, on était toujours dehors. Donc, voilà.
D'accord.
Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Quand il faisait vraiment très froid, on jouait dans des hangars, mais sinon, on était toujours dans la
ouais,
forêt.
Parce que le climat est rude, quand même.
À l'époque, on avait des hivers rudes, mais voilà, Et notre maison, en fait, c'était la forêt. Quoi. On construisait des cabanes, comme tous les gamins de l'époque. Et puis, en même temps, c'était une forêt qui avait été quand même martyrisée par la guerre. Hein. Donc, partout dans la forêt, il y avait des fondrières, des restes de chars d'assaut, de choses comme ça. Donc,
c'était l'aventure des jeux directs, là.
C'était une aventure directe. Et puis, cette forêt avait tellement été marquée par les roues des engins qui avaient des fondrières partout. Et
des
là,
fondrières
tu des vois, fondrières.
Je ne vois pas trop, en fait.
Eh bien, c'est ce que font les roues, les roues des
d'accord.
tracteurs, donc des
d'accord.
Et remplies d'eau.
Donc, d'accord.
Donc là-dedans, il y avait plein de bestioles. Quoi.
Ouais.
Et il y avait encore quelques bunkers aussi de l'autre côté de la voie ferrée. Donc c'était un monde chaotique. Hein. Il y avait eu un gros chaos de la guerre, mais qui revenait dans une harmonie incroyable.
La nature reprenait ses droits.
Voilà,
okay.
Tout à fait. Et là, donc, je tripotais les salamandres, les tritons, j'avais un petit musée. Ça a été vraiment une vie libre, quoi, on peut dire. Hein. Il fallait rentrer, bien sûr, le soir. À la maison,
il y a quand même des
coucher.
Études. Michel, tu ne caches pas nos auditeurs que tu es quand même instituteur.
Donc, enseignant dans le technique. Ah non, mais si.
Professeur.
Si on prend du temps.
Oui, on prend du temps.
Eh bien, on prend du temps. Donc, ma vie. Oui, a été assez chaotique. Si tu veux, étant toujours dans la forêt, moi personnellement, le petit dernier, j'étais passionné par ces petites bêtes là. Et toujours dans la forêt, donc quand mes parents m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire après le certificat d'études, ben j'ai dit, moi je veux être forestier. Alors
d'accord.
Il y avait un forestier à côté, puisque mon meilleur copain, c'était le fils du garde forestier. Donc, et qui était technicien, donc c'était quand même un chef de la forêt. mes parents sont allés le voir et lui a dit, oh, mais c'est pas possible. Vous savez, c'est quasiment tous les enfants des forestiers ont des points dès le départ. Donc, ce ne sera pas possible. Et à l'époque, nos parents ne se battaient pas. Donc, il y avait un centre d'apprentissage à proximité de la maison. Et à l'époque, c'était maçon, menuisier, mécanicien.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, moi, menuisier, le bois. Mais pour y rentrer, il fallait passer un concours. Et ce concours-là, eh bien, les meilleurs étaient mécaniciens. Voilà comment c'était trié. Les suivants dans le concours étaient menuisiers. Et ceux qui n'avaient pas eu de chance, eh bien, étaient maçons. Donc, vous voyez que c'était une vie tracée comme ça. Et moi, je passe ce concours. Malheureusement pour moi, j'ai des bonnes notes. Et on me dit, tu seras mécanicien. Mais je voulais être menuisier. Et mon grand-père, qui était le graisseur de la machine à vapeur, de la filature
D'accord,
cette petite ville, non, mon petit-fils, tu seras mécanicien.
D'accord. Donc, là, on sent que, y a, à l'époque, puis maintenant aussi, toujours, je pense, il y a des contraintes. Et par contre, ta passion, c'est rester la nature.
Ah ben oui.
Parce que elle aurait pu s'échapper aussi avec, je veux dire, la vie d'adulte.
Ah non, pas du tout. J'étais toujours dans la nature. Donc, j'ai passé un CAP. Bon, là, il y a eu un gros choc parce que j'ai perdu ma mère. Donc, je me suis retrouvé avec un CAP dans les usines sidérurgiques de Moselle. Donc, tu D'accord. vois, ça change beaucoup, puisque quand la neige tombait, la neige était jaune le lendemain. Donc,
oui, j'ai encore souffré.
C'était assez... Pas terrifiant, parce que, bon,
il faut savoir qu'après, t'as, juste une petite parenthèse, t'as œuvré contre les pluies acides. C'est peut-être pas pour rien.
Peut-être, oui.
On continue. Je mets des petits jalons pour nos auditeurs.
Là, après, bon, il y a eu mon service militaire et à partir du service militaire, je me suis dit, c'est pas possible.
D'accord.
Je suis pas fait pour travailler en usine. Donc, j'ai travaillé dans une ville, à Nancy.
D'accord.
Dans une entreprise et le soir, j'allais suivre des cours.
D'accord.
Alors, le soir, j'allais suivre des cours et même après, parfois, on allait dans la montagne. Je me souviens quand même des périples incroyables. Après le travail... On prenait nos voitures, on avait bien sûr des voitures.
Ah, il y a une détermination chez les muniers, c'est un truc de fou.
En montagne, on faisait la fête, on bourrait.
Oui, bien sûr.
Ouais. Et le lendemain, à 5 heures, on reprenait la voiture. On avait quand même 1h30 de route pour revenir à l'usine,
D'accord.
travailler ou suivre les cours.
D'accord.
Voilà. Et donc, à certains moments, j'ai passé des concours pour être prof, mais dans le technique.
Hein. D'accord.
J'étais prof de micro-technique,
Ouais.
De petite mécanique.
Et puis... Tu as continué et tu as œuvré, donc tu as été militant aussi, naturaliste. Donc moi j'ai vu juste un petit passage comme ça.
Ouais.
Je me rappelle quand on était jeune, on parlait beaucoup des pluies acides justement sur l'Est avec ces forêts qui devenaient toutes rousses. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ça? Parce que c'est loin déjà et pourtant c'est des premiers combats écologiques très forts.
Alors pour te dire, on n'était pas conscient de ça. Donc il y a eu ce gros choc de ma vie, c'est la rencontre avec un oiseau, donc le grand tétras dans fin des années 60, début des années 70, où je l'ai rencontré dans des conditions incroyables, c'est-à-dire que en montagne, la forêt était couverte de neige, c'était quasiment un igloo, je me souviens, c'était des conditions très dures, et je fais envoler cet oiseau
D'accord.
que je ne connaissais pas. Et il y a un copain qui me dit, c'est le coq de Bruyère. Et c'est à ce moment-là que j'ai été fasciné et je me suis engagé à passer des nuits pour essayer de comprendre sa vie, donc dans toutes les conditions.
C'était pas dans un but photographique, là ?
Ah non, au départ, non.
Non.
Après, je suis venu à la photo parce que je me suis dit, quand je témoignais auprès de mes amis, ça passait pas. Je me suis dit, mais il faut que...
Donc, à travers cet oiseau ?
Eh bien, je suis venu à la photo. Mais en même temps, cet oiseau-là, comme il... Eh bien, faut passer des nuits, parfois on voit rien, il n'est pas là. Mais je vivais quand même dans des conditions météo, je voulais vivre un peu ces conditions rudes dans lesquelles il vivait depuis très longtemps. Et dans les années 80, et c'est là, en sortant, dans les débuts des années 80, où vraiment la population que je suivais était en train de s'éteindre, on regarde les épicéas, les cimes des épicéas, et on voit qu'ils étaient rousses.
D'accord.
Alors on se renseigne et c'est à ce moment-là qu'on a connu ce premier phénomène qui atteignait principalement les épicéas et les sapins. C'était le phénomène des pluies acides.
D'accord. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Hein, je crois qu'il y a deux personnes qui vous écoutent. Moi, je juste vois cette sensibilité. Alors, ce phénomène de pluie acide, je pense que les jeunes n'ont pas trop... Parce que ça, vous avez lutté. Il y a eu des normes. Ou ça continue encore ou pas?
Non, non. Les pluies acides, on va dire, il y a eu quand même... Il y a eu un progrès dans le filtrage des fumées, notamment de la roure, tout ça. Et puis, il y a des produits qu'on n'a plus utilisés. Et donc, les pluies acides se sont...
La lutte a gagné quand même. Parce que si vous n'avez rien dit, peut-être que...
Oui, oui.
Parce qu'il y avait tout le côté aussi écologiste allemand qui était très fort.
Ah, oui, oui, bah, ouais. C'est sûr. Mais là, bon, on a lutté. C'était avec un copain, on a fait un montage, un petit montage audiovisuel, et on passait dans les salles pour montrer un petit peu ce phénomène et le pourquoi de ce phénomène.
D'accord.
Défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Alors, on continue. Hey, Annette, est-ce que tu peux, parce que vous avez aussi... écrit et pour pouvoir transmettre, parce que vous aimez transmettre, c'est ça qui nous intéresse. On va lire juste un petit peu, un petit passage. Je crois que c'est...
Mes longues nuits dans la montagne m'ont rendu familier des différentes vibrations du silence. Façonné par l'atmosphère du temps, il est feutré lorsque la neige est légère, étouffé lorsqu'elle est épaisse. Les gelées qui durcissent le sol le rendent plus aérien, mais lorsque le givre gagne les rameaux, il se fait limpide. Dans l'humidité des brouillards denses, je le perçois comme enveloppant. Aux aurores des matins frais, quand la rosée perle les végétaux, il est léger, innocent, dansant. Mais quelles que soient les conditions, il m'apaise toujours. J'entends le silence, le respire, le ressens. Ma vie a un sens.
Merci Michel pour ce beau passage qu'on pourra trouver dans tes œuvres. Tu as écrit plusieurs livres.
Non, principalement, il y a des livres photos qui sont sortis, oui, avec quelques textes, mais là, c'est un livre écrit.
On peut le trouver ici ou pas ?
Oui, on peut le trouver. Je l'ai vu à la bibliothèque.
D'accord, très bien. Parce que là, quand on écoute ce passage merveilleux, alors ça m'a fait penser à une rencontre que j'ai eue il y a longtemps avec Robert Reynard, mais ça me fait penser évidemment à votre fils. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir l'image de ce qui met en scène, que la nature met en scène et qui nous retransmet. C'est quand même assez fabuleux de se dire cette transmission de passion que vous avez donnée à votre fils. Et comment ça s'est passé en fait ? Vous avez forcé la bête ou vous avez... Comment ça s'est passé ? C'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que de votre passion de défendre cette nature que vous côtoyez en tant jeune, lui aussi a vécu, dans un milieu préservé de la nature, ou peut-être pas loin, mais ça lui a permis. Comment ça s'est passé, en fait, entre vous deux ?
Alors, entre nous cinq.
D'accord.
Voilà. Bien sûr, quand j'ai connu ma femme, elle m'a suivi. L'amour fait que...
On en connaît d'autres.
Voilà. Et donc, on a eu ces trois enfants assez rapidement. Et si vous voulez, quelles étaient nos activités ? Mes activités, c'était la forêt. Donc, tout petit, tout bébé, on les amenait dans les bois, cueillir des champignons, regarder les feuilles, et puis essayer de s'émerveiller même de tous les champignons, quelle que soit leur couleur, leur forme ou leur dangerosité. On regardait, on les sentait, et c'est un monde merveilleux. Je pense que la forêt est le monde certainement le plus merveilleux qui est souvent à notre porte. Et là, bien... Petit à petit, on a dormi. Et puis bon, j'ai commencé à faire
donc,
de la forêt.
Donc vous dormiez dans la nature, pas très loin de chez vous.
Voilà, oui.
Ouais,
oui.
Le week-end, voilà, la famille Munier part.
On partait, parfois même depuis la maison, à pied, le sac à dos. On allait en forêt. Et bien sûr, ce qu'ils aimaient faire, c'était faire un petit feu, cuire une côtelette, près d'un petit ruisseau souvent. Ouais. Parce que mes parents m'avaient appris, gamin, j'avais le droit d'avoir une boîte d'allumettes, mais si tu fais du feu, tu fais du feu à côté du ruisseau sur les galets.
D'accord.
Et tu éteins ton feu. Ça, c'était vraiment primordial. Donc, voilà, j'ai transmis ça à mes trois enfants. Et en fait, ma fille, la première, elle fait de la danse biodynamique sur la nature. Donc, elle a monté
d'accord, on peut citer son prénom quand même.
Isabelle,
voilà.
Qui va être là tout à l'heure, je crois.
Ah, d'accord. Ah, puis, alors, très bien, on va voir toute la petite famille.
Et puis, alors, Sylvain, qu'on ne voit pas souvent parce que lui... je les amenais en canoë sur la rivière, la Moselle ouais. Sauvage, on va dire, pour découvrir aussi en canoë les mortes, les reculées. Et donc, mon premier fils, Sylvain, qui a un an de plus que Vincent, lui vit de canoë-kayak et de dragon boat sur le lac d'Annecy. Il s'est engagé même avec le Sénégal à... Il a fait kayak sans frontières pour sauvegarder les...
Ils font pas un peu quand même, parce qu'ils pourraient garder ça dans leur poche, mais à chaque fois, ils veulent retransmettre. Entre votre fille qui fait de la danse, l'autre qui fait du canoë, on continue.
Oui, et puis Vincent, donc, Sylvain, je l'avais appelé Sylvain Sylvestre, la forêt. Je l'amenais en forêt. Non, c'était l'eau.
C'était l'eau.
Il aurait voulu avoir son lit en forme de canoë. Enfin, c'était l'eau. Et il est toujours... Et il fait des choses extraordinaires sur Annecy. Voilà. Et puis Vincent, Vincent me talonnait. Mm-hmm. Et je me souviens quand entre copains, quand on se passait des diapositives, il était là à écouter un petit peu les critiques. Hein, on critiquait nos photos en disant « mais ça manque d'ambiance ».
D'accord.
Et on essayait toujours quand même à l'époque déjà de mettre l'animal dans son milieu. Ce n'était pas l'animal.
Ce n'était pas la chasse photo avec l'animal au centre.
C'était toujours quand même essayer de montrer le milieu, l'intérêt de la forêt, de la rivière.
D'accord.
Voilà, ça, c'était assez fantastique. Et lui, le prenait tout petit. Il était une éponge, quoi. Donc,
les enfants écoutent. On a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là, en fait.
Oui. Enfin, après, j'ai eu du mal, hein, parce que en tant qu'enseignant, j'ai été convoqué parfois parce qu'il était absent, puis il se trouvait en forêt, quoi.
Ah, d'accord.
Ah, oui, donc,
il y a un dernier, non ?
Comment ?
Vincent, et après
il y a... Les trois.
Les trois. Vous, votre femme et vous, je prenais les cinq enfants.
Non,
d'accord,
non,
excusez-moi.
Voilà.
OK.
Oui.
Et ça, c'est assez extraordinaire. En fait, il faut prendre ce temps, parce que là, maintenant, on va vers la décroissance. Les gens parlent beaucoup de décroissance. Je vois des gens qui arrivent en vélo et autres. En fait, là, vous étiez complètement décroissant aussi, c'est-à-dire que vous n'allez pas à la Côte d'Azur avec la caravane et le... Vous profitiez du loisir de proximité et votre passion, bien sûr.
Oui, c'est ça. Mais en plus, j'ai eu la chance d'avoir un copain m'a vendu un petit combi Volkswagen qu'on a aménagé ensemble.
Ouais.
Et on a fait quelques voyages quand même. Donc, petit, je les ai amenés en Écosse. Hein, et puis, bien sûr... la forêt primaire de Pologne,
Bielowiesa.
Voilà. Mais on dormait toujours en forêt. C'était toujours le minimum à dépenser.
D'accord.
Et le but, c'était de vivre toujours au contact.
D'accord.
Mais parce que
c'était
inné, si vous voulez. C'était quelque chose qui était en nous, sans penser qu'on a... On vivait de pas grand-chose, mais certainement de ce qui est le plus merveilleux.
Et puis c'est pas fini. Donc là, vous avez fait un film avec Vincent. J'ai entendu parler de ça.
Alors, j'ai fait... Ça, c'est un peu...
Un petit peu. On peut en parler un peu ou...
Oui, mais si vous...
Alors, j'ai pas suivi.
Quand il a décidé de faire un film sur la forêt, moi, je lui ai dit, oui, non, mais voilà, il faut vraiment montrer la forêt... Non seulement les problèmes, parce qu'il y a énormément de problèmes, mais surtout la beauté des forêts spontanées, des forêts libres. Et donc, parce que j'ai œuvré encore jusque maintenant, hein, je travaille même avec les forestiers. Et à un certain moment, il s'est dit, mais tiens, je voudrais que tu sois un peu le fil conducteur. Je pensais n'être qu'une ombre. entre les arbres.
Ah, il vous a rusé un peu.
Ben, oui, et puis je crois que dans ce film, on en parle un petit peu, mais c'est lui qui le montre,
c'est lui
qui a fait toutes les images. Et donc là, c'est surtout, on lui a demandé de parler surtout de la transmission de l'émerveillement des forêts.
Voilà, d'accord.
C'est surtout ça. Donc, comment. Les questions que vous me posez,
bien sûr.
Si vous voulez. Vont être dévoilés par des petits mots dans ce film.
D'accord.
Voilà. Et puis, bien sûr, la transmission aussi à son fils, Simon.
D'accord.
Hein, où on échange un petit peu, malgré... Bon, il a quand même le téléphone, comme tous les gamins, mais parfois, il est attentif
au
pourquoi. Et surtout, il se pose des questions. Mais pourquoi pourquoi tu as passé 50 ans à vouloir sauver un oiseau qui vient de disparaître, par exemple?
Ouais. Ce tétra donc, a été le déclenchement de beaucoup de choses. Enfin, d'abord, vos premiers pas en forêt pour sortir de cette petite cuisine, vous disiez, et aller vivre libre. C'est ça, c'est la pleine nature et c'est la liberté. Puis ce tétra, puis cette défense de la forêt, puis la transmission à vos enfants, plus encore les combats, parce que je pense que vous menez encore des combats pour préserver cet oiseau. Qu'est-ce qui se passe actuellement si on revient sur le tétra?
Alors, si vous voulez, j'ai vu progressivement ces populations disparaître et les raisons. Hein. Les raisons étaient déjà la forêt qui avait été quand même meurtrie par la guerre.
Oui. Hein.
Donc, il fallait couper les bois parce qu'ils étaient mitraillés. Il y avait des éclats d'obus dedans, mais ça a été annexé. Puis on n'a planté qu'une seule essence. Donc, on a lutté contre ce système de plantation d'épicéas, notamment sur des superficies incroyables. Et puis le développement touristique, si vous voulez,
Le tétra, au niveau biotope, il a besoin de quoi?
Il a besoin de forêts claires avec un sous-étage peu développé.
Voilà. D'accord.
C'est un piéteur, il vit au sol, il se reproduit au sol. Donc, il est soumis à la prédation.
D'accord.
Fortement. Et puis, il faut qu'ils puissent décoller facilement et se percher pour passer la nuit en sécurité sur des arbres, des bons arbres percheurs. Voilà, donc la forêt vosgienne, la hêtraie sapinière était vraiment sa maison.
Comme celle de l'ours ou comme... voilà.
Oui, mais l'ours peut vivre dans des zones...
Ah oui, il peut, ouais.
Oui, c'est... Hénard le dit, il parle de l'ours sans forêt, mais il y a des zones où il n'y a pas de forêt.
Oui, c'est un présent, opportuniste, hein, voilà, bien sûr.
Alors que le tétras, il a besoin de ça. Et pourquoi donc il vit dans les forêts froides? Tout simplement, dans ces forêts froides, les populations de prédateurs sont faibles.
Ah, d'accord.
Hein, voilà. Donc la prédation est moins importante. Plus vous avez des hivers sans neige, plus le taux de micro-mammifères augmente
et les prédateurs avec. D'accord.
Tout naturellement.
Tout naturellement.
Donc la prédation, et puis on a eu le dérangement touristique, donc en plus il y a un stress. C'est un oiseau super sédentaire qui doit rester quasiment, il reste toujours dans le même secteur avec des zones d'hivernage, et puis il va se déplacer très peu, hein, et il connaît tout son environnement, les autres
D'accord.
et tout. Donc et aussitôt qu'il est déplacé, il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas. Là, il subit des stress et qu'il affaiblisse. Et il peut être soumis aussi là, à la prédation. Et en même temps, avec les hivers de neige qui n'existent quasiment plus, cet oiseau se reproduisait, pondait ses œufs en mai.
D'accord.
En mai, tout de suite, le mois de juin arrivait. Donc, le mois de juin était chaud. Donc, pour les jeunes, ça allait. Maintenant, la parade peut se faire fin février-mars.
D'accord.
Les poules vont pondre en mars.
Il suffit qu'il y ait un coup de froid.
Vous avez quand même mars, avril, mai, où vous pouvez avoir encore de nouveau.
C'est la météo qui déclenche le.
Voilà. Et à ce moment-là, bon, donc les nichées disparaissent à cause du froid de la pluie.
Alors j'ai laissé traîner mes oreilles une fois et j'ai entendu parler de réintroduction de tétras, notamment dans les secteurs. Qu'est-ce qu'il faut peut-être pas en parler trop?
Si, mais pour moi, c'est quand même douloureux, si vous voulez. Parce
de toujours réintroduire, ça veut dire qu'il y a un échec peut-être quelque part. Puisque vous avez gardé une population dans les Vosges originelle.
On a gardé jusqu'à ces dernières années, hein, cette population originelle. Mais si, on a vu tellement cet oiseau souffrir, voir la disparition, un développement des activités touristiques. C'est pas le Vercors, hein, nous, ce sont des ballons.
Ouais.
Il y a des routes partout.
D'accord.
Donc on développe le tourisme, ça devient un parc touristique, les Vosges. Et donc il y a un stress au niveau des oiseaux. J'ai participé à la réintroduction du castor.
D'accord. Ouais.
On a remis 13 castors dans les années 80, et maintenant il y en a à peu près 1000. Mais parce qu'il y avait une seule raison, il avait été piégé jusqu'au dernier.
D'accord.
Donc voilà. Mais là, ce sont des conditions qui s'accumulent. Hein, donc l'habitat, donc on a travaillé avec les forestiers et l'habitat qui s'est un peu amélioré. Le tourisme, on n'y arrive pas,
non.
Parce que c'est une invasion pas possible.
Ouais, et puis on parle d'économie.
Ouais. Et puis le climat, qu'est-ce qu'on peut faire?
D'accord.
On a plus les hivers. Moi, j'ai vu parader ces oiseaux-là sur 1 mètre de neige le 1er mai. Un mètre de neige le 1er mai sur ce petit massif des Vosges. Et maintenant, non, on a un mois de neige. Bon, peut-être que cette année, il y en aura, mais voilà, c'est...
Je pense à où je veux aller et à où j'ai déjà été. Le lien commun de ces idées, c'est que nulle part je ne veux rester. Dune de sable et mur de pierre ne retiendront guère la goutte d'eau qui veut tomber pour se jeter dans la mer. Le plus grand qui m'a dit, petit, petit. peux-tu comprendre? À pas de fourmis, tu verras bien. Jamais rien ne sera trop loin. Dune de sable et mur de pierre ne retient trop en guerre la goutte d'eau qui veut tomber pour se jeter dans la mer. Dans la mer. Souffle frère, souffle le vent, de ton air tu me libères. Brûle père, brûle mon corps, de ton feu je me sens fort. Terre, mer, protège-moi. Je suis la preuve de votre foi.
C'est vraiment, je crois qu'à un certain moment, il faut être raisonnable, s'il y a du bon sens. Il faut se dire, les conditions ne sont plus là, mais continuons à travailler la forêt. Parce que cet oiseau, même si je l'ai observé, vous savez, le temps d'observation par rapport au temps de présence,
j'imagine, ouais.
c'est rien. Mais en même temps, vous voyez quand même toutes les autres espèces qui vivent avec lui. Et puis, comme j'ai passé beaucoup de nuits sous un sapin, sous un arbre, enfin plusieurs,
oui, ouais.
Il y a quelque chose qui se passe. Et si vous voulez, vous comprenez mieux la forêt autour de vous, mais vous comprenez mieux votre forêt intérieure, je vais dire. Donc, il y a quelque chose qui se développe. Vous restez 18 heures sans bouger, sans sortir de votre sapin, forcément, il se passe quelque chose intérieurement. Quoi.
Ouais.
Et tout ce qui se passait intérieurement, je chassais toujours ce qui pouvait être négatif. À un certain moment, c'était de me libérer un peu de tous ces côtés négatifs et d'être un petit peu une éponge de tout ce qui se passait autour de moi.
Francis Allais aussi en parle de ce moment un petit peu magique qu'on a dans les arbres, qui existe aussi chez les marins. Je crois, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un terme. Oui. Ce moment où vous appartenez au milieu et que les choses passent. Ouais,
ah, voilà. c'est important. Vous savez, même si j'ai passé énormément de nuits au Tétra, mais aussi au Castor, j'ai passé des nuits en hiver sur le bord des rivières.
Les Muniers sont des gens qui passent des nuits
dehors. Oui, parce qu'en fait, on est tellement bien.
Oui, c'est ça.
On est tellement bien. On est tout seul, enfin tout seul. Non, on est
oui.
Parmi la foule, voilà. la foule du monde du vivant.
De l'arthropode en dessous.
Voilà. Et surtout, quand on fait un affût, rarement j'ai fait des affûts avec quelqu'un à côté de moi. J'en ai fait, ça m'est arrivé. Mais
c'est
ça,
pas c'est, la même chose.
C'est négatif, non, ouais. C'est pas très bon.
D'accord.
Il faut être seul.
Ok.
Seul et ne pas trop bouger.
Bon, vous avez compris, il faut être seul et pas trop bouger.
Je pense que tout le monde
voilà.
A vécu des moments.
Ben non, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. On est dans des stress. Il y a même des gens qui font des affûts, ils ont les téléphones portables qui se mettent à sonner. Enfin,
j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je bouquine en affût.
Ah ouais.
Mais je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il se passe que, toujours. Vous avez parlé du silence.
Ouais.
Du vent. Alors bien sûr, il y a les chants d'oiseaux, il y a des choses comme ça. Puis intérieurement, il se passe énormément.
Il faut laisser venir pour laisser repartir. Ah, et...
Vous avoir se vider pour se remplir de ce qui se passe autour de nous. Il y a une symbiose. On est. J'aime beaucoup de ressentir les vibrations. Hein. Donc il y a les vibrations, que, je dirais, qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent. Hein. Mais il y a beaucoup de vibrations intérieures. Quoi. Et donc on s'aperçoit qu'on n'est qu'un, on forme qu'un. On est en lien. Hein. On découvre de plus en plus, hein, les liens entre les arbres, les plantes, avec le mycélium. Et en fait, on est reliés. Et là, je suis allé avec Vincent deux fois au Kamchatka. J'étais surpris autour du lac Kouril. Vous avez une forêt qui pousse sur les volcans. Et puis, vous voyez des veines, comme ça, d'arbres beaucoup plus grands.
D'accord.
Des saules. Et en fait, quand on remonte ces petits cours d'eau, c'est là où on trouve tous les restes de saumon.
Ah.
Et ces arbres, eh bien, vivent dépendant des restes de saumon. Et il y a une femme qui est assez extraordinaire, qui est Suzanne Simard. C'est une forestière, on va dire, qui vit en Colombie-Britannique. Et ils ont découvert que, avec le saumon notamment, et dernièrement, je viens de lire ça, c'est que l'ADN, ils retrouvaient de l'ADN des saumons dans les arbres, dans les papillons, dans toutes les espèces.
Mais non.
Oui.
Incroyable.
Donc si vous voulez, déjà là, elle démontre qu'on est quand même reliés.
Ouais.
Et en fait... On s'aperçoit qu'on est relié, ben, on va dire matériellement ou au niveau de l'ADN, mais on est relié par les vibrations. Et c'est pour cette raison que j'essaie, même autour de moi actuellement, j'ai des amis qui sont gravement malades, et j'essaie de rester positif parce que je pense que ça m'arrive de m'écrouler.
Bien sûr,
hein,
bien sûr.
Mais je pense que quand on pense positif, quand on vit du positif, on transmet des ondes positives.
Alors ça, c'est Annette, tu peux peut-être dire quelque chose là-dessus. Elle est tellement émue qu'elle ne peut pas rien dire. Alors Annette, elle est tellement émue parce qu'elle est toujours positive. C'est un renard.
C'est
notre renard à nous.
Je suis complètement d'accord. Et effectivement, c'est le vivre avec, entièrement soi, entièrement avec tout ce qui nous entoure et d'être positif qui apaise et puis
et
qui
on
rend...
le voit bien avec les enfants. C'est vrai, quand il y a des groupes d'enfants où c'est un peu quelque chose de positif, alors dans la forêt bien sûr, hein, mais ailleurs bien sûr, dès que l'instit est positif, tout est positif, et on voit que ça va ouvrir des voies extraordinaires. En tout cas, Michel, toi t'as ouvert la voie de tes fils et de ta fille. C'est pas rien, parce que bah, nous aussi on a des enfants, et on sait que les valeurs que ça porte. Et on se dit, ben,
et
bravo.
Et que eux aussi transmettent.
Et que eux transmettent, parce que c'est vrai.
Que de belles graines de semer.
Voilà, quand on a une photo de Vincent devant son lit, et puis qu'on la regarde, eh bien, c'est pas rien. Donc, on pensera à toi.
Eh bien, merci. Mais pour conclure, je dirais qu'il n'y a rien de forcé. Il faut vivre.
Il faut vivre.
Il faut le vivre et le faire vivre à côté. Et tout simplement, je crois que...
L'affût est comme ça, c'est-à-dire l'affût... On ne sait pas à quel affût on va. On ne peut pas dire « je vais ».
Non.
Non.
Non. C'est l'affût et surtout les rencontres. Toutes les rencontres nous forgent.
D'accord. Voilà. OK. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on se retrouve. Et puis, alors là, moi, j'aimerais que les gens qui sont présents, s'ils ont quelque chose à demander à Michel Munier, donc le papa de Vincent. Là, je vois qu'il y a un fan, là. Non, c'est pas le petit-fils quand même. Non, mais il pourrait. Tu as quelque chose à demander? Non, je vois qu'il y a le livre là. Est-ce que tu peux venir nous parler de ce livre que tu as sur les mains? Juste 30 secondes. Allez, viens. Avec ton livre, bien sûr. Quel gros livre. Comment ça se fait que tu l'as sur... Vas-y. Assieds-toi parce qu'il est tellement gros. Alors... Alors, tu t'appelles, pardon.
Je m'appelle Vadim.
Vadim, ouais.
Ma mère a acheté ce livre parce que Tout simplement parce que, enfin, moi je fais des photos et j'admire beaucoup Vincent.
D'accord.
Et son père. Et
merci.
Et voilà, c'est... Enfin, c'est des sensations... La photo, je trouve que c'est une sensation... enfin, c'est un moment magique quand tu ressens un peu ce que ressent l'animal quand tu prends ta photo. C'est très... Enfin, c'est magique, quoi. C'est incroyable.
Alors, on va te demander quelque chose. Tu vas ouvrir le livre, si ça ne te dérange pas, et tu vas nous parler d'une photo, de celle que tu vois, ou celle que tu as envie. Tu peux tourner la page si tu veux, si tu as envie. Et puis comme ça, tu vas nous la décrire pour nos auditeurs. Voilà, peut-être une qui t'interpelle. Alors là, voilà, décris-la pour moi.
Là, c'est un ours blanc mouillé. qui a sûrement qui sort de l'eau, j'ai l'impression, et qui regarde Vincent, parce que je vois. Et
il y a une rencontre, tu penses?
Oui, ouais, il y a une rencontre. Enfin, c'est, ouais, je pense. Enfin, c'est, et à mon avis, il se demande qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi, enfin...
Il y a un dialogue qui s'établit, tu penses?
Ouais, il se pose des questions, je pense.
D'accord. Alors, est-ce que toi, tu as déjà eu une rencontre? C'est possible, parce que tu aimes la photo. Avec un, pas forcément un ours, évidemment, mais une petite rencontre, quelle oui. qu'elle soit. Vas-y, une...
Ouais, ouais, j'ai rencontré le Ticodrome.
Oh.
J'ai rencontré le Yépié et plein d'autres oiseaux, en fait. Et j'ai pris une photo, par exemple, de d'Orit. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah non, pas du tout, non.
Et c'était vraiment magique, cette photo, parce qu'elle me regardait.
Une photo de, pardon?
D'Orit. D'Orit, alors, que je sais pas.
Ah d'accord, ok, bon, bah écoute.
Et elle me regardait et je sentais vraiment qu'elle se posait des questions, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et c'était vraiment...
Un dialogue aussi. Il y avait une
ouais,
complicité,
c'est ça.
D'accord.
Ouais.
De la Dorit à longue queue. Eh bien, tu connais toi, Michel, la Dorit à longue queue?
Pas du tout, pas du tout.
Ah ouais.
Ouais.
Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est magique. Ce mot, tu peux pas savoir. Quand j'ai amené Vincent en forêt, on avait une petite allée. On arrivait de nuit près d'un petit ruisseau et on se mettait dans l'axe de l'allée et on voyait passer des bêtes. Et cette allée là, on l'appelait l'allée magique. Parce que c'est vrai, c'est la magie.
Bien. Bon, je pense que le public peut applaudir quand même. Voilà. Hein. On n'est pas au jeu des 1000 francs, on est au jeu de la sensibilité de la nature. Et ce n'est pas un jeu, c'est une vie. Merci, merci à vous deux, en tout cas. Merci, Michel.
Merci
à toi aussi. Merci. Merci beaucoup.
De télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air. Toute l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. J'boirais le Seine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.